C-H-G-A.
Toujours plus.
C-H-G-A.
Le service d'information de la radio CHGA vous propose l'émission d'affaires publiques L'heure juste. Nous vous offrons ce moment privilégié où nous prenons le temps d'analyser l'actualité du moment.
Félix-Antoine Parent avec vous encore une fois ce mercredi midi. Il fait très, très beau à l'extérieur. J'espère que vous allez pouvoir en profiter un peu, peut-être avant ou après là, votre goûter. Si vous avez la chance de le faire, ben faites-le. Écoutez, aujourd'hui, menu quand même chargé. On va parler d'un sujet qui est, je dirais pas sur toutes les lèvres, mais qui a fait... Qui a nourri les discussions dans les dernières années dans la région et qui a suscité aussi de l'engouement et de l'espoir. C'est le dossier de la nouvelle salle de spectacle de la Maison de la Culture. Une bonne partie de l'émission d'aujourd'hui sera dédiée à ce sujet. D'ailleurs, on commencera avec ce sujet-là et on terminera avec un autre sujet qui risque de polariser aussi l'attention. C'est le manque de place en garderie. CHGA-FM s'est entretenu avec Marie-Ève Patry. C'est une maman de la région qui a eu beaucoup de difficultés là, à trouver un endroit pour son enfant. Trois, quatre, cinq services de garde qu'elle a dû faire. Il y en a qui fermaient. Bon, et entre-temps, de retrouver une place, c'est pas évident. C'est aussi, il a fallu qu'elle prolonge son congé de maternité sans solde. Vous voyez tous les impacts que ça peut avoir. C'est un impact psychologique, financier également. Bref, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, je vous le disais, Maison de la Culture, nouvelle salle de spectacle. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Ben, pour nous faire un petit résumé de tout ça, on est au bout du fil. Michel Gauthier, qui est président du conseil d'administration de la Maison de la Culture. Monsieur Gauthier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Parent.
Donc, d'entrée de jeu, où est-ce qu'on en est? Parce que là, on a lancé un appel d'offres dans les derniers mois et les soumissions sont élevées, là, étaient beaucoup, beaucoup trop élevées. On parlait d'un manque à gagner de plusieurs millions de dollars.
Ben, effectivement, c'est un dossier où on pensait arriver avec un projet tournant autour de 10 millions. Finalement, l'ouverture des appels d'offres, puis après réévaluation de tout le projet, compte tenu des appels d'offres, des soumissions qu'on avait eues, on parle plutôt d'un projet de 16 millions. C'est énorme. Mais c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs autres projets au Québec qui ont subi des mêmes hausses de coûts. Il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte, dont les restrictions à cause des mesures sanitaires pour la COVID-19. Dans notre cas, on parle d'une somme qui pourrait aller jusqu'à 1 million en termes de coûts supplémentaires. Alors, évidemment, il fallait retourner faire notre pèlerinage pour le financement du projet. Il y a eu des nouvelles demandes, un nouveau dossier de préparer, des nouvelles évaluations faites avec ingénieurs et architectes, puis on a déposé de tout. On n'a pas eu de réponse négative, mais on n'a pas eu non plus de réponse positive. Ce qu'on a eu pour le moment, c'est votre dossier est encore là pour analyse plus approfondie. C'est une façon polie de dire qu'on n'est pas en mesure à ce moment-ci de donner une réponse. Et alors là, ce qu'on a fait, en février et mars, on a procédé à une campagne de sensibilisation politique. Parce que rendu où on est, comme je vous dis, on n'est pas le seul cas. Ça demande une certaine sensibilisation politique. Alors, on a envoyé des lettres d'appui, on a fait une pétition. Ça a été envoyé à la ministre de la Culture, au ministre responsable de l'Outaouais, puis au ministre de Patrimoine canadien. Entre-temps, on a également eu une excellente rencontre avec le ministre responsable de l'Outaouais concernant le dossier. Ça devait durer 30 minutes, ça a duré une heure. Et M. Lacombe a convenu de porter le dossier au niveau des cabinets de la culture et de l'éducation. Et ensuite, dans une seconde étape, de porter le dossier au niveau des deux ministres. On a eu aussi, la semaine dernière, une rencontre avec le député William Amos, toujours sur la même question. C'est une rencontre qui s'est très bien déroulée. On a fait le tour du dossier à nouveau, puis on a convenu, M. Amos a convenu, qu'il ferait les démarches pour organiser une rencontre le plus rapidement possible avec le ministre de Patrimoine canadien, M. Stephen Guilbeault. C'est là qu'on en est actuellement dans le dossier. On attend donc des réponses au niveau politique.
6 millions de dollars, c'est pas une mince affaire. Là. On a, durant plusieurs années, ça a pris plusieurs années avant d'aller chercher ce 10 millions de dollars qu'on a dans les coffres. Ça, c'est garanti, on l'a, c'est bien, c'est beaucoup d'argent, 10 millions, mais 6 millions, c'est quand même, je disais, pas une mince tâche. C'est possible d'aller chercher 6 millions de plus du côté fédéral et provincial, sachant qu'ils ont déjà contribué au projet?
Ben, c'est une tâche difficile, mais il y a des cas où des dossiers similaires se sont réglés. Et comme je dis, c'est la logique dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents facteurs qui expliquent les dépassements de coûts. Il y a des facteurs sous contrôle, genre quand il n'y aura plus de mesures sanitaires pour la COVID-19, ben on peut pratiquement réduire nos coûts d'un million. Et nos nouvelles évaluations ont été faites sur une moyenne des soumissions reçues, alors que ce qui ne veut pas dire nécessairement que ça va être aussi élevé. Si le plus bas soumissionnaire de l'année dernière est encore sur des rangs, ben il y a des chances que la soumission va être encore une fois inférieure aux évaluations. Mais là, on spécule. Ce qu'il faut comprendre, c'est oui, c'est des gros montants d'argent. Mais je vous donne un exemple encore hier. On disait dans les médias qu'il y a un projet à Montréal où le ministère de la Culture a triplé le montant qui investissait dans le projet. Et là, on parle de dépassements importants là aussi. C'est pas inhabituel. Et comme moi, vous savez que dans les projets, il y en a beaucoup dont les soumissions sortent beaucoup plus élevées que les prévisions. Mm-hmm. C'est pas le cas de tous les projets, mais dans le domaine de la culture, au niveau de projets comme le nôtre, ça a été le cas. Je regarde un projet à Rouyn-Noranda qui était évalué autour des 8 millions. Bon, ben après être allé en soumission, là aussi, les dépassements ont été importants. Ils sont trouvés avec un manque d'à peu près 5 millions. Au prorata, c'est presque identique à notre projet là, en termes de dépassement.
OK. Considérant qu'on a à Mont-Laurier une salle de spectacle à 45 minutes et une à Gatineau, bon, du sud, c'est pas loin, c'est à peu près un autre 45 minutes. Donc, on est à 45 minutes à peu près partout d'une salle de spectacle. Est-ce que ça pourrait faire pencher dans la balance? Si on donne l'exemple de Rouyn-Noranda, je sais pas où sont, je connais pas assez bien le territoire, mais peut-être que les besoins et la population est beaucoup plus importante. Il y a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pensez-vous que notre 20 000 personnes, le nombre de personnes qu'on a sur le territoire et notre proximité avec des salles de spectacle, ça pourrait faire pencher de la balance peut-être pas du bon côté?
Absolument pas, parce que nous, on a fait faire une étude de marché au tout début là, des démarches pour ce projet-là. Il était question au départ d'une salle de 575 places. On fait faire une étude de marché, puis tout ça, on s'est rendu compte que 575 places, c'était trop pour une région comme la nôtre et trop par rapport aux habitudes de consommation des gens au niveau des spectacles et de la culture. Je donne un exemple. Mont-Laurier, ils ont une salle de 600 places, mais à cet endroit-là, la population est pratiquement la population du urbaine dans un rayon limité autour est pratiquement le double de celle de Maniwaki. Alors nous, notre projet, il est à 419 places. Puis, ils correspondent exactement aux besoins pour un marché comme le nôtre.
OK. Bon, là, les gens ne sont pas sans savoir que vous avez aussi le chapeau de candidat conservateur aux prochaines élections. Je vais poser la question parce que je vais m'entretenir aussi tantôt avec Alphée Moreau qui connaît aussi quand même le domaine fédéral. Il a œuvré dans ce domaine-là. Mais bon, je vous pose la question quand même. Est-ce que ça peut pas nuire au projet? Je sais que vous avez une rencontre avec M. Amos la semaine dernière. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été fait en gentleman. Il n'a pas été question de la campagne, donc on a fait fi de ça. Mais dans les faits, il me semble que je verrais bien mal, et je vais poser la question à M. Moreau tout à l'heure, mais je verrais bien mal, M. Amos, faire des pieds et des mains pour trouver des sous pour que son adversaire puisse dire, écoutez, vous voyez, j'ai réussi, moi, à amener un beau projet pour la vallée, je suis l'homme de confiance et surfer sur cette vague-là. Qu'est-ce que vous en dites?
Ben, à ça, je répondrais que je suis convaincu que M. Amos serait bien content de pouvoir annoncer que son ministère débloque les argents qui permettent au dossier de débloquer. Et la question peut se poser dans les deux sens. Mais vous avez raison en disant que ça soulève des questions. C'est normal. Mais moi, souvent, je réponds. Premièrement, je ne fais pas de politique avec ce dossier-là. Je ne l'ai jamais abordé dans le cadre de mes interventions politiques depuis que ma candidature pour le Parti conservateur, elle est connue. Puis, s'il fallait, mettons, appliquer à la lettre en disant que c'est une situation, exemple, je ne sais pas, de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt, ben il n'y aurait plus grand monde de disponible pour s'investir en politique, parce que ça voudrait dire qu'on peut pas faire rien d'autre. Mais je trouve normal, par contre, que des gens se posent la question. Le contraire serait plutôt surprenant. Moi, les engagements que j'ai pris, puis j'en ai informé mon CA, c'est qu'une fois que la campagne électorale va être officiellement déclarée, toute intervention publique concernant la Maison de la culture, c'est pas moi qui vais la faire. Il y aura un autre porte-parole au sein de la Maison de la culture qui va s'occuper à ce moment-là, si nécessaire, de faire des interventions publiques. Mais je dois aussi souligner qu'une fois qu'une élection est déclenchée, le gouvernement ne peut plus non plus annoncer de nouvelles subventions. Si ça doit se faire, il faudrait que ça se fasse avant le déclenchement des élections.
Qu'est-ce qu'ils en disent, vos administrateurs? Parce que moi, j'ai eu quelques sons de cloche. Les personnes ne veulent pas prendre la parole publiquement là-dessus. Ils disent, écoutez, c'est pas nous. Les gens, en fait, avec qui j'ai parlé au CA, se disent, quand je les ai questionnés à savoir est-ce que M. Gauthier devrait céder sa place et tout, ils ont dit, écoutez, on n'a pas, c'est pas à nous de le faire. J'ai parlé avec des maires qui représentent la MRC. Ils ont dit, nous, on n'est pas élus, on est nommés. J'ai parlé, on va en parler tout à l'heure avec M. Rossignol. Ce qu'il disait un peu, c'est, écoutez, moi, je suis mal placé en tant que directeur d'une commission scolaire pour demander ça, ou, tu sais, c'est de la politique. Mais je sentais quand même que les gens avaient comme un petit malaise. Il semblait trouver qu'il y avait peut-être un semblant de conflit d'intérêt, sans le dire conflit d'intérêt comme tel, là, mais un semblant de... il me semble, non?
Ben, moi, j'aime pas dans ce cas-là l'expression conflit d'intérêt, parce qu'il n'est pas vraiment question d'intérêt, encore moins d'intérêt personnel.
Non, c'est sûr.
Mais il y a un questionnement à savoir, bon, ben, le président de la Maison de la culture a besoin de financement pour son projet, il est candidat conservateur au fédéral, le fédéral, c'est un des intervenants au projet, puis d'ailleurs, le fédéral a déjà contribué un million quelques au projet.
Mais de là l'intérêt, c'est ça.
Oui, mais il y a là une rencontre d'intérêt probablement, mais comme j'ai dit, moi je n'ai jamais abordé le dossier de la Maison de la culture depuis que j'ai été nommé candidat conservateur. J'ai fait mon travail habituel, j'ai rencontré le ministre M. Lacombe, j'ai rencontré M. Amos en réunion. La réunion s'est très bien déroulée,
oui.
Puis on n'a pas ni un ni l'autre non plus abordé la question la Maison de la culture sous l'angle du fait que je suis candidat conservateur. Au contraire, je pense. La réunion s'est déroulée comme si j'étais pas candidat, point, et que j'étais pas quelqu'un qui était dans l'arène politique. Au niveau de mon conseil d'administration, j'ai la confiance de mon conseil d'administration, mais ça veut pas dire qu'elles autres non plus se posaient pas des questions. Alors ça, c'est important. Comment je dirais bien, c'est exemple, c'est les deux maires qui représentent la MRC puis les gens qui représentent la commission scolaire. De ce côté-là, c'est normal qu'on se pose des questions parce que eux s'en font aussi poser, exemple au niveau de la MRC par le conseil des maires. Puis c'est normal qu'on s'interroge. Exemple, la MRC s'inquiète de l'avenir du projet tant que ça n'a pas débloqué. Ben moi, je partage cette inquiétude-là. C'est évident. C'est des questions qu'on se pose, on se les a posées, mais j'ai la confiance de mon conseil d'administration, mais comme j'ai dit, à partir du moment où le gouvernement déclenche officiellement l'élection, moi je n'ai pas l'intention d'aborder ce dossier-là en campagne électorale. Les gens connaissent déjà mon implication dans le dossier.
Okay.
S'il y a des interventions à faire, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va les faire.
Okay. Écoutez, M. Gauthier, autre question, le temps file, là, on aurait pu passer plus de temps. Est-ce qu'il y a un plan B? Parce que là, c'est un très beau projet que vous nous avez présenté. C'est grandiose, les images, ça fait rêver. On se dit, enfin, on va avoir une salle de spectacle digne de ce nom qui fait la fierté de la région, qu'on n'est pas gêné d'inviter des grands noms à venir se produire sur notre scène. Mais là, plus on attend, justement, on a le 10 millions d'assurés, le 6 millions, 4 millions, bon, c'est pas trop combien qui manque, là, ça dépend des soumissions, mais c'est quand même beaucoup de sous. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire avec le 10 millions, dire, écoutez, on diminue un peu le projet, on coupe ça à 300 places, je sais pas, puis on va de l'avant aujourd'hui, pas demain, parce que plus on attend, plus c'est incertain?
On a une rencontre d'un comité spécial que je vais probablement mettre à l'horaire dans le courant de la semaine prochaine, justement pour discuter de plan B. Discuter de plan B, ça ne veut pas dire qu'on va opter pour un plan B, ça va vouloir dire qu'on va élaborer, dessiner un plan B au cas où on en ait besoin. Moi, je demeure toujours convaincu que le succès à long terme du projet passe par sa réalisation selon son architecture puis ses interventions actuelles. Mais il est important que des gens qui estiment qu'il faut un plan B dans le décor, ben, il est important que j'ai autour de moi des gens qui vont travailler à dessiner ce plan B-là. Parce que moi, si j'étais le seul à décider, je dirais, on y va pour le projet dans sa structure et dans son architecture actuelle. Mm-hmm. Mais je comprends aussi qu'il faut des gens autour pour discuter de ces possibilités-là. Alors ça, on a déjà décidé ça en conseil d'administration. Il va y avoir un comité qui va s'asseoir et qui va définir ce plan B-là.
OK. Ben, en tout cas, on vous souhaite bonne chance parce que tout le monde, hein, puis on s'en est déjà jasé en rond, vous et moi, les gens ne veulent pas savoir c'est de la faute à qui, pourquoi ça n'avance pas, parce qu'il y a plusieurs éléments, il y a des choses hors de notre contrôle, la COVID, hein, pour ne pas le dire. Donc, il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle, mais les gens, on le sait, et vous le savez plus que quiconque, là, ont très, très hâte de pouvoir retourner voir un spectacle de musique, un spectacle d'humour ou une pièce de théâtre. Je pense que les gens l'attendent avec impatience. Donc, pour cette raison-là, ben, on vous souhaite la meilleure des chances pour la poursuite du dossier.
Grand merci.
Merci, M. Gauthier. Donc, merci. Donc, ben écoutez, c'est intéressant. Vous voyez, c'est pas une simple tâche. C'est un projet d'envergure, cette nouvelle salle de spectacle. Ça demande beaucoup de rencontres. Est-ce qu'on aura la mouture triple A qu'on nous a annoncé, promis, ou on aura une mouture peut-être un peu réduite, mais qu'on aura plus tôt? Écoutez, c'est la décision, comme on l'a entendu tout à l'heure, que les administrateurs auront à prendre dans une autre rencontre. Restez des nôtres, on poursuit la discussion par rapport à la Maison de la Culture, cette nouvelle salle de spectacle avec le directeur du Centre de services au bois de l'Outaouais, M. Denis Rossignol, dans un instant. Restez des nôtres.